Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Certaines marques suscitent un tel engagement émotionnel qu'elles peuvent parler de fans plus que de clients, d'audience plus que de base de données. Ça s'est renforcé depuis la pandémie, nous voulons des marques engagées. À la question « Quelle est la raison d'être de votre entreprise ?», peu de marques, même éthiques, ont malheureusement une réponse. Ce constat est douloureux, mais n'en est pas moins réel. En 2022, personne n'a besoin d'une nouvelle marque de mode. Ce que la planète exige, c'est que la production propre et raisonnée soit un prérequis. Ce que les citoyens souhaitent, ce sont des entreprises à mission aux valeurs tangibles, militantes, pacifistes pour un monde meilleur et capables de créer un lien humain dans la jungle digitale. Peu de marques réalisent ce tour de force. Et cet épisode s'appuie sur un cas d'école. Meuf Paris est née d'une volonté farouche de sa fondatrice, Claire Succo, de défendre et protéger les femmes. Le vêtement était un prétexte, un vecteur de messages aussi vaillant que bienveillant, prêt à porter pour faire du bruit. Aujourd'hui, les collections sont toutes fabriquées en France par un atelier ouvert par la marque elle-même. Entre vestiaires responsables et communautés soudées, démonstration d'une douce révolution menée par les meufs, avec Meuf Paris. Eh ben, bonjour Claire.
Bonjour.
Merci de me recevoir chez toi, dans cet endroit où tu as fraîchement déménagé. Ça fait 2 déménagements en un mois, c'est ça ?
Exactement, ouais.
Donc l'atelier de confection de Meuf et ton chez-toi.
Exactement.
Qui sont séparés depuis la même période, puisque avant tu vivais dans ton atelier, enfin dans ton bureau.
Dans les bureaux, ouais. C'était pas très agréable.
on va évidemment parler de la marque et de toute cette communauté incroyable que tu as développée, mais avant, je crois que c'est assez important que tu te présentes et que tu me parles un petit peu de toi en tant qu'enfant, parce que j'ai l'intuition que la genèse de Meuf, elle remonte pas du tout à tes études, mais bien avant.
Ouais, complètement. Je pense qu'elle remonte à, enfin, limite à ma naissance, parce que moi, je suis née fille, du coup, et mon père aurait voulu que je sois un garçon. Et il me l'a tout le temps dit. Enfin, il me l'a toujours dit, depuis que je suis petite, il m'a toujours dit j'aurais voulu que tu sois un garçon. Il m'a même dit le prénom qui avait été choisi si j'avais été un garçon. Enfin, c'était un peu violent.
T'es née dans une fratrie ?
Ouais, on est 6 enfants.
Ouais. Ouais,
on est 6 enfants et en fait, on est 4 filles. Et juste après moi, il y a eu un garçon. Donc c'était un peu genre, on essaye jusqu'à ce qu'on arrive enfin à avoir le Saint Graal. Et donc voilà, enfin, et en tout cas, moi j'étais la dernière fille avant que le miracle se produise. Et donc voilà, enfin, j'ai toujours senti toute petite, du coup, que bah, en fait, c'était pas bien d'être une fille, quoi. Enfin, que c'était moins bien, en tout cas, aux yeux de mon père, qui est quand même un truc important quand on est enfant. Donc voilà, ça a été hyper, tout de suite, très important pour moi. Et j'ai tout de suite essayé, du coup, de remédier à ça, d'abord en essayant de me comporter comme les garçons, donc en aimant les jeux de garçons, en jouant au foot, en jouant aux petites voitures. Je connaissais toutes les marques de voitures, voilà, je ne m'intéressais pas du tout aux Barbie, etc. Mais je ne me posais même pas la question en fait, de si ce que je voulais faire. C'était plus qu'est-ce que font les garçons ? Ok, bah, moi je vais faire ça parce que c'est ça qui est bien, quoi. C'est ça qu'il faut faire pour être bien et être aimé. Donc, j'étais un peu, comme on dit, les garçons manqués. Et puis, à un moment donné, j'ai vu que ça ne marchait pas, parce que dans tous les cas, j'étais une fille et que du coup, ce n'était pas ce que mon père attendait. Et donc, j'ai un peu laissé tomber le truc, quoi, en me disant, bah, en fait, je vais au contraire prouver que on peut être une fille et que c'est très bien aussi et que c'est pas moins bien. Et voilà, et donc je pense que je l'ai évidemment pas formulé comme ça, mais en fait je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu cette espèce de mission en moi de dire non mais attendez, on peut en faire autant, on a notre place et il faut arrêter de penser que c'est moins bien d'être une fille, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a ça qui a joué. Et puis après, évidemment, l'éducation, l'école, en CP, quand j'entends le masculin l'emporte sur le féminin, je pense que, enfin moi, en tout cas, c'est une phrase qui m'a vachement marquée. Je me rappelle que voilà, j'avais posé la question à la maîtresse en disant mais je comprends pas, enfin s'il y a 10 filles dans une pièce et un garçon, je comprends pas, enfin c'est quand même, on accorde quand même au masculin. Ça me paraissait aberrant en fait. Mais j'avais 6 ans, hein. Mais voilà. Et donc c'est plein de petites choses, je pense, qui ont un peu façonné cette façon de penser. Et voilà, donc je pense qu'effectivement, tu as une bonne intuition, ça vient de très très loin.
À quel moment tu te souviens d'avoir une conscience de genre? Parce que quand je t'écoute, j'essaie de me remettre dans la peau de la petite fille que j'étais en maternelle et après. Effectivement, je me souviens d'avoir eu des comportements mimétiques qui étaient liés à ce que ma famille m'expliquait, que devait être une fille et un garçon. Mais je ne sais pas si j'avais conscientisé la différence. Est-ce que toi, tu savais, par exemple, que tu voulais faire ça parce que tu aurais voulu être le garçon que ton père n'avait pas eu, ou tu l'as post-rationalisé?
C'est difficile de te répondre parce que je n'arrive pas à me rappeler de ce que je pouvais penser à ce moment-là. Ouais, j'arriverai pas à te dire si c'est là, maintenant, avec le recul, que je comprends que j'ai fait ça pour ça, ou si j'en avais conscience. Franchement, je saurais pas te dire.
Mais ma question, c'est peut-être, tu vois, à quel moment, finalement, t'as décidé d'être toi? Parce que toi, ça aurait pu être aussi rester ce garçon manqué qui reste du côté des mecs et qui a cette part-là, même en tant qu'adulte.
Ouais, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait vraiment petit à petit. Et je peux pas dire, c'est à 7 ans et demi, bim, j'ai compris. Je pense que petit à petit, j'ai doucement lâché l'affaire. Et après, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai des côtés où on pourrait me dire, tiens, ça, c'est un garçon manqué, par exemple. Mais aujourd'hui, je me prends pas la tête avec ça. Et justement, je pense qu'on peut tous avoir des côtés... féminin, masculin, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà, chez moi, c'est mon mec qui fait la cuisine et c'est moi qui répare les robinets, par exemple, tu vois. Et c'est OK, quoi. Mais voilà, et en tout cas, quand je répare un robinet, je ne me dis pas « Ah, je fais un truc de mec, quoi. » Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un truc qui s'est fait petit à petit, où petit à petit, j'ai juste décidé d'être moi sans me... Enfin, et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait remettre en question, justement, le genre et ce qu'on attribuait au genre, en tout cas, les stéréotypes, quoi. Je pense que c'est cette souffrance-là qui a fait que je l'ai remise en question et que je me suis dit, mais en fait, je m'en fiche, je vais faire ce que je veux et je vais être garçon sur certains aspects, fille sur certains aspects, enfin, comme on l'entend dans les stéréotypes, et peu importe, quoi. Et je serai moi-même et ce sera très bien.
T'as été entourée donc de 3 grandes sœurs et d'une maman. Ça fait quand même un sacré girl squad dans une famille où le père a l'air quand même de prendre une grande place. T'as quoi comme... T'as été éduquée avec quelle notion de justement la sororité et la puissance féminine, tu vois, au sein d'une famille où vous étiez majoritaire en nombre?
Alors, moi, je suis vraiment pas très proche de mes deux parents. Mais par contre, avec mes sœurs, on est très, très proches. Et on est très, très solidaires encore aujourd'hui. Et c'est vraiment, pour moi, c'est mes modèles. Enfin, c'est un peu elles qui m'ont, c'est un peu éduqué tous ensemble, tous les enfants, quoi. Avec mon petit frère aussi, évidemment. Hein. Mais en tout cas, ouais, enfin, mes sœurs, c'est des personnes dont je suis hyper admirative, qui sont hyper fortes et qui ont toujours été là pour moi et tout. Donc oui, enfin, je pense que j'ai eu cette notion de sororité aussi hyper jeune. Enfin, je sais qu'il y a des familles où les frères et sœurs se tire un peu dans les pattes. Nous, c'était vraiment pas le cas. Il y avait vraiment une solidarité entre nous. On se défendait. Si on pouvait se faire punir à la place de l'autre, on le faisait. Enfin, il y avait un peu une notion de sacrifice les uns pour les autres. Donc non, franchement, là-dessus, ouais, j'ai vraiment eu un super exemple et aussi un exemple de féminisme, hein, parce que mes sœurs sont féministes, alors pas forcément aussi engagées que moi, mais dans leurs actes et dans leurs paroles, elles l'ont toujours été. Donc je pense que c'est clair que ça m'a aussi aidée, quoi.
Du coup, après donc cette révélation autour de peut-être primaire ou début du collège, comment est-ce que tu t'appropries et tu te revois dans ton identité, tu vois, de jeune femme, de jeune ado? Est-ce que tu es plutôt androgyne dans le look? Est-ce que, enfin, tu vois, quels sont à quoi tu t'identifies?
Le look, je crois que les looks, j'ai un peu tout testé, mais
On a la carte blanche à l'adolescence, on a le droit de...
Ouais, c'est ça. Non, vraiment, j'ai tout fait. J'ai fait plein de couleurs de cheveux. J'ai testé le look... comment ça s'appelait? Emo. J'ai beaucoup fait ça. J'ai tout testé. Vraiment, j'ai tout testé. Ouais, je sais pas comment je m'identifierais. Pour moi, l'adolescence, c'est une phase où t'as pas vraiment... Enfin, c'est pas que t'as pas d'identité, mais tu te cherches, quoi. Donc, tu sais pas encore vraiment qui t'es et... J'ai du mal à m'identifier à un style, entre guillemets, quoi.
Mais en tout cas, il y a déjà, dans ce que tu décris, une conscience de l'expression par le vêtement. Parce que tu aurais pu aussi avoir un style tout à fait... comment dire, passe-partout.
Ouais, complètement.
Et tu avais quel rapport, avant de lancer Meuf, tu vois, la mode, ça t'évoquait quoi? Est-ce que c'était un univers dans lequel tu fantasmais, évoluais?
Alors, à la base, moi, j'avais pas du tout pour ambition de travailler dans la mode. Mais par contre, j'aimais bien ça. Passer du temps à choisir mes habits, etc. C'était quelque chose de faire les magasins. Alors, j'étais pas du tout conscientisée, pour le coup, sur ce plan-là quand j'étais jeune. Et c'était à base de Zara, Mango. Et plus il y en a, mieux c'est. Mais en tout cas, j'aimais bien m'habiller, quoi. C'était un truc important, ouais. Je trouvais que, enfin, c'était une manière d'exprimer, de s'exprimer, quoi. Et donc et de se sentir bien et tout ça. Enfin, j'ai toujours aimé prendre du temps pour m'habiller, et je me rappelle que je me suis toujours dit, quand on parlait des grands patrons, genre Mark Zuckerberg et tout, qui s'habillent tout le temps pareil, je me disais, mais je crois que ça me déprimerait profondément de faire ça. Enfin, et je comprenais le concept de c'est pas utile, on se prend pas la tête, etc. Mais pour moi, c'est une manière de prendre soin de soi aussi. Enfin, c'est un peu comme aller me faire un hammam, quoi. Bien prendre le temps de choisir mes habits le matin, c'est me faire du bien. Voilà.
C'est hyper intéressant parce qu'il y a à la fois une volonté de ne pas se prendre la tête pour eux et de se dire, OK, bah, j'ai un costume passe-partout qui est toujours le même. Et en même temps, c'est un statement qui est tellement fort de dire, moi, je suis au-dessus de l'expression à travers mes vêtements. Voilà la figure que je suis et preuve. Enfin, comment... Steve Jobs, et je veux dire, tu caricatures n'importe qui avec un jean et un col roulé noir, c'est sûr que tu as son image en tête. Donc, je trouve que dans la sociologie du vêtement, et ça en dit long, c'est très intéressant.
Ouais, c'est clair.
Ce d'autant plus que, on va en parler après, mais du coup, tu as quand même développé une marque sur le concept de vêtements portant des messages. Mm. Donc, mais avant ça, je voudrais que tu m'expliques. Si ce n'est la genèse de la boîte, le cheminement à travers ton parcours d'études vers cette entreprise, qui je crois n'était pas du tout, ne serait-ce qu'une idée au moment où tu as commencé tes études supérieures, puisque tu voulais faire du cinéma.
Ouais.
Est-ce que tu te rappelles déjà pourquoi ?
Pourquoi je voulais faire du cinéma ?
Ouais.
Ouais, moi je suis une passionnée de cinéma et j'écris depuis que je suis petite. Et je voulais vraiment faire mon métier. Je voulais faire scénariste. Et puis après, j'ai compris qu'en France, en tout cas, les scénaristes réalisaient leurs films. Donc je me suis dit, OK, donc il faut aussi réaliser. Donc je me suis vachement intéressée à tous ces métiers-là. J'ai fait mes études. J'ai fait le lycée option cinéma, etc. Enfin, j'ai vraiment tout orienté dès le lycée pour me renseigner sur ces milieux-là. Et après, j'ai très vite travaillé dans le milieu du cinéma, dès 19 ans. Et voilà, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la régie, j'ai fait l'assistanat réalisation, assistanat production, et j'ai réalisé aussi mes courts-métrages et tout ça. Et en parallèle, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique.
Tu peux nous parler un peu des thèmes des courts-métrages que tu as réalisés? Est-ce qu'il y avait des messages particulièrement militants déjà ou
Non, pour le coup, je crois pas, parce que je suis vraiment... Le style d'écriture que j'ai, je dis j'ai parce que j'écris encore... C'est plus souvent des réflexions sur la vie qui vont être avec un tout petit peu de science-fiction. J'aime bien faire ça. Pas non plus complètement de la science-fiction. Hein, un truc un peu plus... Enfin, plutôt un peu féerique, magique, un peu poétique, on va dire, qui va... Voilà, mais qui a toujours dans l'idée d'essayer de réfléchir sur un sujet. Ça peut être réfléchir à... on passait un test pour savoir si on est en capacité ou pas d'avoir des enfants avant d'avoir des enfants. Et donc j'imagine cet univers-là.
Tu veux dire en capacité de les éduquer?
Ouais.
Ou en capacité d'en faire physiquement?
Les deux, en fait. C'est-à-dire que si avant d'être parent, on devait être validé, quoi, en gros. Si on n'était pas tous autorisés à être parents. Et donc imaginez un peu qu'est-ce que ce serait, une espèce de centre qui qui ferait des tests et qu'est-ce que ce serait les tests et en fait quelles seraient les dérives de ces tests-là et pourquoi c'est pas vraiment possible en fait. Mais voilà, donc c'est j'aime bien imaginer des trucs comme ça. Donc bon, on peut dire que c'est engagé, mais pas forcément féministe quoi. mais voilà, et donc j'écris tout ça. Enfin, je suis vraiment dans le ciné et mon copain participe à un concours à son école, il est à l'ESCP et il fallait monter un projet de start-up pour un gars qui venait des États-Unis, il fallait lui pitcher un projet. Et bref, il me demande un peu mon avis, etc. Donc je commence à lui donner des coups de main et puis plus je lui donne des conseils, plus il a envie que je lui en donne. Donc je finis par rentrer un petit peu dans le projet en parallèle de mes multiples tafs. Et en fait, je kiffe à fond. Genre, je kiffe le concept d'être de monter un projet, quoi. Et donc, grosse remise en question. Moi qui pensais avoir ma vie toute tracée depuis que j'étais petite, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?»
Attends, excuse-moi, mais j'ai une question. La nuance entre monter un projet de film, qui est quand même un sacré projet, si c'est mon hypothèse d'être scénariste et réalisatrice, ou monter un projet de boîte, c'est quoi le différentiel qui fait qu'il y en a un qui t'excite de ouf et l'autre pas du tout?
Les deux m'excitent hein. et je pense que enfin je suis même sûre qu'un jour je ferai un film, mais il y avait ce côté ce besoin d'indépendance chez moi qui est très très fort depuis toujours et que du coup que j'avais envie de trouver plus facilement et donc l'entrepreneuriat c'était plus ça. Après, entre monter un film et monter une entreprise, il y a énormément de points communs et ça demande, il y a beaucoup de qualités qu'il faut avoir, il y avait des qualités communes en fait aux deux projets quoi.
Ce serait quoi si tu schématiquement les listais?
Je pense que dans les deux cas, tu passes ton temps à résoudre des problèmes, donc faut aimer ça quoi. Enfin, sur un tournage de film, il y a tout le temps des problèmes, rien ne se passe comme prévu. Une entreprise, c'est pareil, donc faut rester calme. Il faut être en capacité de chercher des solutions un peu inédites en permanence, donc avoir cette ressource-là. Et puis toujours prendre du recul, tout le temps prendre du recul, être capable de changer de direction, être agile. Enfin voilà, donc tout ce que j'ai appris dans le ciné, en fait, ça me sert au quotidien. Et en plus, j'ai été assistante réalisateur, donc j'ai géré des équipes. Donc clairement, j'ai fait du management en fait. Ok, c'est des équipes de ciné, c'est très cool et c'est très différent. Mais en fait, j'avais quand même déjà une expérience. J'ai fait l'assistana production, donc j'ai géré des budgets. Au final, tout ça m'a servi à fond, quoi. Donc,
Et c'est probablement ça qui a fait la valeur ajoutée dans le projet de ton copain à ce moment-là?
Peut-être, ouais, peut-être.
Et ouais. Alors, du coup, le jump se fait à quel moment?
Donc lui, il fait ce projet-là. Bon, c'est un projet qui était scolaire. Hein. Voilà, il présente son truc. Ça donne pas grand-chose, mais bref. Moi, grosse remise en question. Et il me dit, écoute, à l'ESCP, il y a un programme de 6 mois d'entrepreneuriat. C'est 6 mois. Il faut postuler pour essayer d'être accepté. Et ils ouvrent, en fait, au profil extérieur. C'est-à-dire qu'ils prennent pas que des étudiants qui sont en master. Ils prennent aussi et ils veulent surtout des profils extérieurs et notamment des profils artistiques pour avoir des équipes un peu variées en fait pendant le cursus. Et donc je postule à ça, je suis prise, c'est à Madrid pendant 6 mois, donc trop bien. Enfin, première expérience à l'étranger. On part du coup tous les deux parce que donc mon copain avait postulé aussi, mais lui ça faisait partie de ses études. Et voilà. Et donc moi je m'étais dit ok, je vais voir en fait, c'est que 6 mois. Ça me permet de voir un peu ce que je pense un peu de tout ça.
À ce moment-là, tu te dis que tu mets en pause tes études de cinéma pour tester quelque chose ou tu voulais en partir? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y avait des raisons?
J'étais plus en études, je travaillais. Et il y avait des choses qui m'allaient pas dans ce milieu. Et notamment, en fait, ce qui m'allait pas, c'est que je passais beaucoup de temps à travailler sur le projet des autres et que j'avais très peu de temps pour mes propres projets. Et donc j'étais un peu lassée de bosser sur le projet des autres. C'est un milieu aussi qui est très compliqué quand on est une femme, hein, mais bon, comme tous les milieux, mais vraiment, alors femme plus jeune, c'est plus poste important parce que assistant réalisateur, c'est quand même un poste important.
Et c'était avant MeToo en plus, donc j'imagine
c'était
que
MeToo, ouais.
Les mecs faisaient moins gaffe.
Ouais, complètement. Et puis ils étaient un peu genre, ils arrivaient sur le tournage, ils me regardaient. La jeune, en plus, je faisais encore plus jeune que ce que j'étais. C'est qui cet ado qui va diriger le plateau, quoi, en gros. Donc, il fallait tout le temps faire ses preuves. Enfin, moi, c'était... Enfin, en fait, c'est un truc qui m'épuisait et qui m'épuise en général, d'ailleurs. Et donc, voilà, il y avait pas mal de choses qui me... qui m'allaient pas. Et aussi, je sentais que j'avais besoin de pas être dans un milieu 100% artistique. C'est un peu bizarre. Mais voilà, ça, en fait, ça, j'avais un peu peur de... Si je sentais que je suis quelqu'un de très sensible et que si j'allais 100% dans une fibre artistique, bah peut-être ça pouvait être dangereux pour moi. Enfin, je sentais que c'était pas... Je sais pas comment l'expliquer, c'est plus de l'intuition en fait. Mais je sentais qu'il fallait qu'il y ait autre chose pour équilibrer et quelque chose de plus rationnel en fait. Je sentais que j'avais besoin d'avoir un pied dans la société plus classique, on va dire, même si l'entrepreneuriat c'est pas classique, mais quelque chose de plus rationnel et que l'artistique, ce soit à côté, mais que du coup, je puisse vraiment avoir ces deux choses-là. Et donc, voilà. Et donc, je fais cette formation. Ça se passe pas très bien parce que c'est école de commerce et que moi, j'étais un peu étrangère à ce milieu qui est quand même très spécial, qui est pas très féministe non plus, hein, on va le dire. Et qui, enfin, au début, en fait, je me suis un peu fait prendre de haut, quoi. Genre, ah ouais, t'as fait du ciné, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, c'est pas des vrais métiers. C'était un peu ça l'ambiance. Et puis très compétitif, mais pas compétitif, constructif. Compétitif juste pour se tirer tous dans les pattes. Ce qui n'est pas du tout d'ailleurs le cas quand on est dans l'entrepreneuriat après. C'est vraiment un truc d'école, je pense. Parce que moi, j'ai pas la sensation que j'ai avec tous les entrepreneurs avec lesquels je traîne. C'est pas du tout l'ambiance. Donc ça reflète pas du tout ce que ça peut être l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, voilà, en école, ils avaient tous l'impression qu'il fallait qu'on se tire tous dans les pattes. Mais voilà, en tout cas, j'apprends beaucoup et je sens que j'ai envie d'aller par là. Je suis quelqu'un de très, très intuitive et des fois, j'arrive pas à expliquer mes choix, mais je sens qu'il faut que je les fasse. Donc, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et donc, avec mon copain, du coup, on a présenté un projet pour la chaire entrepreneuriat. Et on avait un mois, en fait, pour monter un projet de A à Z. Et on a fait une box avec des solutions naturelles pour les règles douloureuses.
D'où venait cette idée, déjà?
C'est mon copain qui avait mal tous les mois. Et c'était une idée qui m'est venue parce que j'avais moi-même des problèmes et que les médecins m'avaient dit « c'est normal d'avoir mal pendant ces règles ». Et que du coup, j'avais cherché des solutions et j'avais trouvé des solutions surtout. Et je me disais « mais c'est génial, il faut que j'en parle à toutes les autres meufs de la Terre ». Donc l'idée, c'était de pouvoir tester chaque mois des huiles essentielles, des tisanes, tout ce qui est plantes en fait, qui peuvent aider, soulager en fonction des maux dont on souffre. Donc ça, c'est le projet qu'on a présenté, pour lequel on a gagné quasiment tous les prix. Enfin, ça avait vachement plu et tout ça, donc ça m'a beaucoup encouragée à continuer. Et voilà, on a continué ce projet après l'achat entrepreneuriat. Et puis, il y a eu pas mal de soucis. Ça a été compliqué de travailler en couple. Et on a trop théorisé les choses. On était trop, trop dans la théorie, et vraiment pas assez dans l'action. Et après, moi, j'ai eu un problème perso. Enfin, tout ça a fait que le projet n'a jamais vraiment démarré, en fait. On a été dans la dissertation pendant 6 mois. Au lieu d'être dans l'action, et il n'y a rien de pire, je pense. Enfin, c'est vraiment le truc qui fait que tu te lasses toi-même de ton projet, en fait. Donc, chose que je n'ai plus jamais faite après. Et donc, voilà. Et donc, ce projet, finalement, ne voit pas vraiment le jour. Moi, je suis dans une phase où je ne suis pas très bien, parce que c'est un peu triste d'abandonner un projet. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je me sens un peu perdue. Et puis, et c'est dans ce contexte-là que je décide de lancer Meuf, qui, je pense, était là, avant, dans un coin de ma tête, quoi. Donc, je le lance en n'étant pas au top. Je le dis parce que je trouve ça important de le dire. On n'est pas toujours boosté à bloc quand on lance un projet. Et c'est pas grave. Ça peut le faire aussi, quoi. Et voilà, et je lance Meuf, je crois, 3 semaines avant MeToo. Et voilà, peut-être que tu veux que je m'arrête là.
J'ai 2 questions intermédiaires. Déjà, il va falloir que tu m'expliques ce qu'était Meuf quand tu l'as lancée. Est-ce que c'était ce que c'est aujourd'hui? Parce que quel âge a la boîte, là?
Elle a 4 ans et demi.
D'accord.
Ouais, 4
Donc
ans.
Ça a pas mal évolué. Mais avant ça, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure au sujet de peut-être tes deux parts de cerveau artistique et cartésien. En notant des mots-clés, sur toi, de ce que j'ai pu voir de la fois où on s'est rencontrés, la lecture de ton livre et puis sur les réseaux, tout de suite, en fait, au top de la liste, il y a multipotentiel, c'est-à-dire profil... Alors, théoriser, c'est un terme au départ anglophone, mais je pense qu'on le comprend bien en français. Quelqu'un qui est, dont on a l'impression qu'il pourrait se lasser vite de plein de choses, mais qui, en fait, est par nature hyper curieux et qui a besoin de s'épanouir dans un milieu pro riche, en fait, et divers. Et moi, je suis aussi comme ça. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre via une vidéo, d'ailleurs, YouTube, d'une meuf qui s'appelle Emily Wapnick, qui est super et qui en a fait, voilà, enfin, sa carrière internationale de conférences autour de ça. Et je me suis fait la réflexion au moment où j'ai découvert ça, que mes héros en tant que nana, c'était souvent des hommes et c'était souvent des multipotentiels. Donc c'est soit des héros contemporains, genre Jean-Louis Etienne qui commence à être... je ne sais plus ce qu'il était, il avait fait un BEP, je crois, sidérurgie. Ensuite, il a été chirurgien orthopédique, il a abandonné sa carrière à la paix pour partir explorer l'Arctique. Et en fait, aujourd'hui, c'est un grand explorateur, il fait de la photo et il est scientifique. Et enfin, voilà, moi, alors, je ne serai jamais à la hauteur de son talent, mais en tout cas, ou de ce qu'il a accompli, mais c'est vraiment, ça fait partie de mes héros. Et je me suis tout de suite dit, d'une part, ces héros-là, ils appartiennent presque au siècle dernier, voire au début du siècle dernier, parce qu'au début du 20e, on n'en avait rien à faire que tu sois explorateur, photographe, que tu fasses de la politique et que tu aies été avocat. Mais surtout, c'était vachement masculin. Et je remarque qu'on est très conditionné, homme comme femme, mais probablement encore plus femme, avec ces espèces de plafonds de verre, ces monocarrières super longilignes qui peuvent être hyper, hyper flippantes finalement et pas du tout épanouissantes et qui se font au prix de beaucoup de sacrifices. Et je note que toi, tu présentes cette multipotentialité comme étant presque par la négative, à savoir bon, bah, c'est parce que j'ai une part sensible, donc il faut que je me diversifie pour me protéger. Mais en fait, il faut que tu diversifies parce que tu rayonnes quand tu fais mille trucs. Ouais, et par définition, l'entrepreneuriat, c'est une manière d'explorer justement tout ce champ des possibles. Et du coup, c'est un laïus pour arriver à ma question. Mais comment est-ce que tu as été éduquée? Quel métier faisaient tes parents? Et est-ce qu'ils t'ont donné cette confiance en ce potentiel entrepreneurial qui était en toi?
Alors, mes parents étaient orthophonistes pour mon père et ma mère, elle était sage-femme, donc tous les deux dans la santé. Et non, enfin, vraiment, enfin, comme je te disais, j'étais pas très proche de mes parents, ils n'étaient pas très présents. Nous, on avait un peu été des enfants sauvages, quoi. On s'est un peu éduqués nous-mêmes avec mes frères et sœurs. Donc, je pense que ça vient de là, en fait. Finalement, c'est un peu eux qui l'ont fait parce qu'ils nous ont laissé un peu nous débrouiller. Mais du coup, à devoir très vite se gérer, en fait. Et gérer des choses qui sont parfois pas des choses que des enfants doivent gérer. Mais du coup, bah, franchement, ça t'apprend, ça te fait grandir assez vite. Et après, j'ai toujours été très observatrice depuis que je suis petite. J'ai toujours été... J'ai cette image de moi en permanence assise dans un coin, dans la cour, mais pas parce que j'étais exclue, parce que j'avais des amis, mais plus parce que j'aimais bien, en fait, regarder les gens, essayer de comprendre qui fait quoi, comment. J'ai toujours été très comme ça, et encore aujourd'hui, j'adore me poser à une terrasse et regarder les gens passer. Et donc, je pense que ouais, j'ai eu une longue phase d'observation petite de « Ok, donc comment marche le monde ?» et de « Comment, moi, j'ai envie de l'aborder aussi ?» Et de pourquoi pourquoi il faudrait que je fasse ça exactement comme ça. Enfin, je pense que c'est un truc, toujours ce truc-là de chemin tout tracé, tout ça, c'est un truc qui m'a toujours hyper angoissée. Je me suis toujours dit, mais en fait, si on veut, on peut avoir mille vies. Enfin, j'ai pas du tout envie de qu'on me dise c'est tout droit et tu peux plus tourner à gauche ou à droite. C'est non, quoi. Enfin, voilà. Après, je sais que c'est un privilège aussi de pouvoir penser comme ça, mais pour le coup. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu privilégié, donc j'estime que je me suis construit ce privilège-là, de pouvoir changer de voie, et je continuerai à le faire. Enfin, si je veux, ça se trouve, dans 10 ans, je reprendrai des études et je serai avocate, et je ne vois pas le problème, en fait. Enfin, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu différent, dans le sens où, effectivement, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, me permet de combler ce côté multipotentiel, comme tu dis. Mais après, ce dont je parlais, c'est plus que quand j'écris, je me sens fragile et je sais que si j'écrivais à 100%, je pourrais être trop fragile. Et donc, j'ai trouvé cet équilibre-là qui est génial parce que, en fait, si j'écris le dimanche et que je suis fragile, mais le lundi, il faut que je sois au boulot, que je gère mes équipes et je ne peux pas être vulnérable. Et en fait, c'est bien parce que c'est un peu dur le lundi, du coup. Et en fait, ça me remet dans la vie Et en fait, c'est génial. Ça me, ouais, ça me permet de pas me perdre dans un truc qui peut être dangereux, je pense. Et en même temps, bah, je peux quand même avoir mes moments d'écriture où du coup, je suis complètement connectée à cette sensibilité-là, à cette fragilité-là, quoi. C'était plus par rapport à ça que je te disais, je me voyais pas faire quelque chose de 100% artistique.
Tu dirais que t'as un tempérament, ou je sais pas comment l'appeler, mais un peu mélancolique, où tu peux avoir cette tendance.
Ouais, et c'est assez contradictoire parce qu'en même temps, je suis quelqu'un de très positive, très optimiste, très bout en train aussi. Je suis toujours de très bonne humeur. Et c'est vraiment quand je me plonge dans cette activité artistique où là, je peux être dans un truc très mélancolique. Mais c'est pour ça que je ne veux pas le faire à 100%, en fait.
Et j'ai la sensation, en tout cas, de pouvoir diviser le côté indépendante, voire vraiment... Enfin, individualiste, ce n'est pas le terme, mais indépendante dans ta bulle dans laquelle tu peux éventuellement avoir des idées, des pensées qui ne sont pas positives, et le bright side qui appartient aussi à la communauté. Donc, en fait, c'est une communauté qui t'aide à te raccrocher aux branches, mais c'est aussi toi qui donnes... tellement, et qui t'ai fait une mission à travers cette marque de distribuer du positif, quoi. Clairement, c'est hyper étonnant. Alors justement, Meuf, au moment où c'est conçu, c'est quoi ? À l'époque, il y a 4 ans et demi.
Meuf, au moment où c'est conçu, c'est l'idée de pouvoir s'exprimer à travers le vêtement, de pouvoir faire passer des messages. Et donc, c'est 4 modèles, dont un où il y a écrit juste Meuf, de t-shirts et de sweats. Et c'est moi qui lance ça sans trop savoir comment on fait pour construire une marque et pour faire en sorte que ça marche. Et qui lance ça un peu sur Internet en disant « Ok, c'est bon, les gens vont venir. » Et qui me rend compte qu'il faut faire des choses pour que les gens viennent sur ton site. Et voilà, c'est ça au début. Et puis Meuf, c'est une histoire beaucoup de sororité au final, parce que si Meuf marche aussi bien aujourd'hui et si Meuf a marché aussi vite... C'est vraiment parce qu'il y a plein de femmes qui avaient une plus grosse communauté sur les réseaux, mais aussi, je pense à Angèle, avec qui on a fait une collab, donc pas que sur les réseaux sociaux, qui ont aimé le projet et qui ont décidé d'y adhérer, en fait, et d'en parler. Et ça, ça s'est fait très, très vite, quoi. C'est Marion Séclin qui l'a fait la première. Et après, ça s'est enchaîné. Et on a vraiment eu ces coups de main qui étaient vraiment parce que le projet parlait. Parce qu'on était, ouais, de femme à femme, et c'était un truc très soror, quoi, au final.
Et donc, au départ, l'idée, c'était de permettre aux femmes de transmettre des messages qui leur donnent du pouvoir à travers leurs vêtements.
Exactement.
Pourquoi est-ce que tu as choisi le vêtement plutôt que, je sais pas moi, un objet, des posters, tu vois, des œuvres d'art ?
On fait des posters maintenant. Mais en fait, ce que je trouvais génial avec le vêtement, c'est que... On choisit de le mettre ou de ne pas le mettre. Il est là dans la rue. La rue, il y a un côté un peu... Enfin, il y a le côté militant de la rue. Et on le met au travail aussi. Et je pense que c'est un lieu où les femmes auraient plein de choses à dire, en fait. Et voilà, et donc c'était vraiment cette idée-là de soit pouvoir faire passer des messages, lancer des débats, soit avoir un vêtement qui peut un peu être un soutien. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est les messages qu'on reçoit de femmes qui nous disent « J'ai mis mon t-shirt guerrière en dessous de ma chemise pour aller négocier mon salaire. » Et en fait, je me sentais entourée de toute la mafia. C'est des choses comme ça. Ou grâce à votre page, j'ai réussi à me mettre en maillot. Enfin, c'est des... Voilà, c'est... Ouais, c'était ça l'idée. C'était de réussir à faire des vêtements un peu magiques qui seraient au-delà du vêtement, quoi, qui auraient une vraie symbolique. Et après, ce que je trouvais aussi intéressant dans le vêtement, c'est qu'en tant que femme, on choisit nos vêtements beaucoup en fonction de ce qu'on va faire dans la journée, mais pas de manière pratique. Est-ce que je vais me salir et que du coup, il faut que je mette un jean un peu vieux, mais plus à quelle heure je vais rentrer, qui je vais voir, est-ce que je dois faire attention de ne pas avoir un trop gros décolleté parce que ça va être interprété comme ci, comme ça, est-ce que ma jupe n'est pas trop courte, pas trop longue. En fait, on se pose des milliers de questions qui sont épuisantes, et je pense que les mecs n'ont pas conscience de ça, en fait, à quel point cette étape peut aussi être fatigante, quoi. Et je me disais, moi j'ai envie que dans l'armoire de ces meufs-là, ma marque, ça soit un petit clin d'œil, quoi. Ce soit pas un... ce soit pas un questionnement de plus, quoi. Ce soit ah cool, je vais prendre meuf avec moi, quoi. Enfin, et ça va me faire du bien.
T'as dit que tu t'étais rendu compte en lancement qu'il fallait faire des choses pour être visible, ouais. Que les gens viennent sur ton site internet. C'est quoi les outils que t'avais identifiés ou les méthodes que t'as appliquées pour ça avant d'être, tu vois, alpaguée par Marion Seclin ou Angèle, dont tu peux peut-être nous dire comment elles sont d'ailleurs venues à toi.
Ouais, bah donc j'ai lancé la page Instagram. Moi, j'avais pas Instagram en plus à titre perso à ce moment-là, donc je connaissais pas trop. Et donc au début, je tâtonner un peu, quoi. Et en fait, donc, j'ai commencé à, moi, démarcher des personnes influentes comme Marion Seclin. Ça, c'est moi qui l'ai démarché. Je lui ai envoyé un long mail en lui expliquant pourquoi j'aimais son travail et pourquoi ce serait un honneur pour moi qu'elle porte une de nos créations. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, moi, c'est vraiment, franchement, c'est 100% Instagram qui a fait que ça a démarré. Après, Angèle est venue vers nous. Ça, c'était un peu plus tard. C'était... un an et demi après. Mais au tout début, ouais, c'est plein de meufs en fait sur Insta qui ont accepté que nous on a démarché et qui ont accepté de donner un coup de main parce que elles aimaient les valeurs de la marque, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les actions qu'on a fait au début pour se faire connaître. Et puis après, très vite ça a pris sur Instagram et après les gens partageaient beaucoup. Ça s'est fait un peu tout seul, quoi. Après c'était lancé, quoi.
Tout à l'heure, quand tu parlais de la façon dont tu aimais regarder les gens en étant posé au café et comprendre comment le monde marche, je me disais, c'est marrant, c'est exactement la façon dont je perçois ton usage d'Instagram. Tu fais partie des personnes que je trouve extrêmement authentiques, en fait, enfin, tu vois, sur Instagram, que ce soit ton compte perso ou meuf. Et j'ai l'impression que tu te nourris un peu de ce qui passe sans que ce soit se nourrir de l'air du temps ou prendre les trucs qui fonctionnent, mais vraiment de façon très spontanée et très intuitive aussi. Est-ce que c'est comme ça?
Complètement. Et c'est d'ailleurs parfois un peu dangereux parce qu'en fait, je peux passer un peu trop de temps, quoi. C'est pas le côté addictif, mais c'est vraiment que je suis très curieuse. Et du coup, je vais sur un compte, il parle de ça, qui parle de ça, qui parle de ça. Et puis je me retrouve à un truc qui n'a rien à voir. Et en fait, je commence à me passionner pour un...
géopolitique au Tadjikistan.
Ouais, exactement, exactement. C'est exactement ça. Mais non, je peux passer des heures à... Je trouve ça hyper, hyper intéressant, Instagram. Enfin, comme tout réseau social ou tout média. Enfin, voilà, bon, y a de quoi se perdre pendant des heures à... Il y a tellement de choses, c'est infini. Donc oui, c'est un peu ma terrasse de café virtuelle. Ouais.
Mais je pense que tu es un bon exemple, et le fait que tu parles de ton amour pour l'écriture, les mots, fait sens, mais de justement ce type de marque qui a réussi à développer une communauté parce que tu as une expression extrêmement franche et simple et humaine, chose que la plupart des marques n'ont pas. Et d'ailleurs, quand on voit les taux d'engagement, alors bon, après, il y a peut-être des rachats de comptes qui font que tu passes de 0 à 1,5 million, donc forcément, tu as 300 likes sur ta photo, mais il y a quand même un manque d'authenticité qui est palpable. Et d'ailleurs, c'est une hypothèse qui vaut peut-être rien, mais je pense que c'est pour ça que les très gros comptes ont du mal à aller sur des plateformes comme TikTok ou que pour l'instant, le NFT dans la mode, vraiment le métavers, les défilés, etc., ne fonctionnent pas parce que les marques, à mon sens, y voient une autre manière, un autre canal pour pousser des produits. Or, il y a des êtres humains derrière chacune des personnes qui suivent ces comptes. Et si tu ne t'adresses pas à eux, finalement, tu rates complètement ta cible. Et vous, il y a ce côté, tu as parlé de la meufia tout à l'heure, tu peux peut-être nous expliquer, mais c'est le hashtag de la communauté finalement.
Ouais, bah, la meufia, c'est le nom de la communauté qu'elles se sont choisies elles-mêmes. On les a fait voter au tout début. Et oui, c'est vrai que, en fait, c'est un peu comme si meuf, c'était deux choses, quoi. C'est à la fois des vêtements, enfin après, c'est évidemment lié, mais il y a ce côté communauté qui est hyper fort et qui est... où il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup de conseils qui peuvent être donnés. Enfin, on a aussi développé un groupe sur Facebook qui est un groupe privé d'entraide pour lequel il faut remplir un petit questionnaire pour rentrer. Donc, c'est assez safe comme endroit. Et où il y a eu même des rencontres entre membres de la meufia. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont devenus très amis, qui font des pique-niques dans leur région tout ensemble et tout ça. Donc l'idée, c'était vraiment de réussir aussi à construire un endroit, une safe space, à chaque fois j'ai du mal à le dire, pour les meufs sur Internet. Et ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup développer d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça arrive très souvent qu'on ait des messages, alors c'est malheureux, mais de meufs qui nous disent je voudrais porter plainte contre mon conjoint, à qui je dois m'adresser. Et des fois, quand je vois ce genre de message, je me dis, mais... c'est quand même fou de recevoir ça quand on est une marque, en fait. Enfin, et en même temps, je me dis, OK, donc c'est Et c'est un peu compliqué à gérer, hein, parce que évidemment on n'est pas qualifié pour ça. Et moi, du coup, je briefe beaucoup mes équipes aussi là-dessus, parce que des fois, c'est un peu, ça peut être un peu difficile aussi de gérer nos réseaux sociaux. On reçoit parfois des messages un peu durs, quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pas vraiment définissable, en fait. Mm-hmm.
Ouais, c'est une marque média. Mais au-delà du média, il y a vraiment cette notion de communauté. Et du coup, c'était ma question sur les outils que vous aviez pu développer pour faire en sorte qu'il y ait de l'interaction. Parce que c'est vrai qu'Instagram, bon, t'as les sections comment qui sont hyper importantes, très valorisées d'ailleurs par l'algo, mais ça reste assez limitant.
Ouais.
Et donc, le groupe Facebook, c'est une super idée, surtout dans la mesure où, un peu comme un forum, les nanas s'autogèrent, elles peuvent s'organiser des events, etc. Et du coup, la perspective d'évolution, tu te dis, j'aimerais bien développer ça, mais tu vois quoi comme canaux et comme formes?
Franchement, j'ai pas encore vraiment eu le temps de me poser dessus parce que je pense que c'est un projet à part entière qui prendrait beaucoup de temps. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit en physique ou en virtuel. Mais créer un lieu virtuel, pourquoi pas dans le métaverse, qui serait un endroit où les meufs peuvent se retrouver entre elles et se sentir en sécurité et discuter de tous ces sujets tabous dont on peut pas parler. Et tu vois, enfin, tu parlais d'Instagram, mais de la section comment. Clairement, on va moins oser s'exprimer quand on sait que c'est public, quoi. Et nous, sur le groupe, c'est hallucinant. Enfin, les messages, c'est ça tourne toujours autour des mêmes sujets. C'est sur la sexualité, énormément, sur les règles, beaucoup. Donc la santé, quand même. Et ouais, ça, c'est les deux principaux sujets. Et il y a des sujets très profonds qui sont abordés. Après, il y a beaucoup aussi de psychologie. Enfin voilà, de santé mentale, mais voilà, c'est vraiment les trois principaux sujets. Et ouais, c'est fou de voir. Alors là, c'est à une toute petite échelle, on est 5000 sur le groupe, mais ouais, en tout cas, c'est super intéressant de voir, même à notre petite échelle, à quel point ce groupe s'autogère et à quel point ça peut faire du bien à plein de gens, quoi. Et quand je faisais des dédicaces pour mon livre, il y en a plusieurs qui sont venus me voir en me disant, on s'est rencontrés sur le groupe, du coup, on vient vous voir ensemble. Enfin, c'était trop touchant.
Est-ce qu'il y a des mecs dans la Meufia?
Alors, pas sur le groupe, parce que ça, on ne voulait pas, c'est fait exprès. Par contre, sur Insta, oui. Et on a quand même beaucoup de clients mecs qui n'achètent pas pour eux, mais enfin, quoique, on en a quelques-uns qui achètent pour eux, mais c'est plus rare. Mais oui, il y en a. Il y en a sur Insta, je crois qu'on a 8% d'hommes qui nous suivent. C'est pas énorme.
Est-ce que tu as des exemples de marques qui sont un peu, tu vois, tes... soit qui ont une activité similaire dans des pays étrangers, parce que c'est vrai qu'en tout cas en francophone, je ne connais pas l'équivalent, ou dont tu t'inspires, ou qui ressemble un petit peu à ce que vous faites.
Non, là, j'ai pas... Enfin, j'ai une marque qui me vient en tête, mais qui ne fait pas vraiment ce qu'on fait, mais je ne sais pas si tu vois Tajine Banane.
Oui, très bien.
Bah, je trouve qu'on a un peu le même style de marque.
Plutôt communauté mater, quoi.
Enfin, ouais, voilà, elle, c'est une marque de vêtements d'allaitement. Mais voilà, je trouve qu'elle, elle est très... Enfin, je trouve qu'on a un peu le même style de com, très authentique aussi, et très engagée, en fait. Elle est très engagée sur l'allaitement ou le non-allaitement, d'ailleurs. Mais c'est très féministe comme message. Et nous, voilà, c'est sur nos sujets. Mais je trouve qu'on a pas mal de similitudes avec cette marque. Et puis, elle aussi, elle met des messages sur ses vêtements. Donc, même dans le style, ça peut un peu se ressembler.
T'as un profil d'outsider, trublion. De discipline, je m'explique, mais en gros, le fait de te voir passer du cinéma au business avec des codes que tu n'as pas forcément, ou en tout cas que tu transposes d'une industrie à l'autre, fait que tu fais quelque chose de vraiment hyper unique. Et pareil, en tant que marque qui devient un média slash une communauté, à mon sens, c'est super inspirant pour les médias, parce que ça dit des médias traditionnels de mode, sur les sujets qui sont abordés ou pas, pour des raisons même parfois historiques, à tel point que, enfin, je veux dire, qui font qu'on n'a tellement pas l'habitude de les traiter qu'on n'y pense même plus. Ce matin, en réunion éditoriale, on parlait justement d'aborder des sujets de sexualité dans la rubrique société, de la façon dont le porno façonnait la sexualité chez les jeunes, qui est massivement disponible partout, et des TCA, en fait, des troubles du comportement alimentaire. Et on se faisait la réflexion que au départ, on se prenait le chou sur qu'est-ce qu'on va pouvoir les trouver comme experts pour nous donner des réponses intéressantes. C'est hyper polémique et tout. Et en fait, parfois, la solution, c'est juste de mettre le sujet sur la table. Et simplement, le fait d'adresser les inégalités hommes-femmes de façon simple, avec des schémas, des infographies, des mèmes, des photographies marrantes. Pareil pour ces questions-là. Donc, c'est marrant comme ça vient, En tout cas, de mon point de vue, je le vois comme ouais, vraiment une manière de chambouler et de remettre en question la façon dont on aborde ces sujets dans la sphère publique. Et d'ailleurs, tu es très proche en termes de ligne édito, de période studio, de médias comme ça, de tapage aussi. Enfin, donc, c'est l'espoir, en tout cas, qu'il y ait un vrai mouvement de révolution des médias. Est-ce que tu, est-ce que certains t'inspirent particulièrement, tu vois, lesquels te parlent personnellement ?
Bah, ceux que tu as cités sont très chouettes. Après, moi, je regarde pas mal aussi à l'étranger. Il faudrait que je te retrouve, je suis très mauvaise en... Non, je suis pas monomaniaque du tout. je suis très... Je me balade, quoi. Je me balade sur les réseaux... Et un truc m'inspire un truc qui m'inspire un truc. Enfin, j'ai pas de routine de tiens, je regarde telle page tous les matins, etc., etc. J'ai du mal avec ça. Dans une époque plus ancienne, j'aurais pas été du genre à aller prendre le journal à la même heure tous les matins.
Le même journal, très bien. Alors, du coup, t'incarnes aujourd'hui beaucoup ta marque. Est-ce que c'était un choix ? Et est-ce que tu penses qu'il faut le faire aujourd'hui, à l'heure des marques médias ?
Alors, ce n'était pas un choix. Et au début, je ne le faisais pas du tout, d'ailleurs. Mais c'était vraiment une demande de la mafia, de « mais qui est derrière ?» On a envie d'en savoir plus. Et donc, pour moi, ça a été... Enfin, j'ai beaucoup sorti de ma zone de confort pour le faire. Maintenant, ce n'est plus du tout un problème. Mais c'était un peu... Enfin, j'avais un peu du mal au début. Je ne suis pas sûre que ce soit toujours une bonne idée. Parce que je pense que c'est bien... Enfin, ça peut être un peu angoissant parfois de se sentir complètement irremplaçable. Il y a une espèce de poids de... mais en fait, tout repose sur moi. Et si demain, je suis malade de moi, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, dans ce sens-là, je trouve que ça peut être dangereux. Et je pense que... moi, c'est pour ça que j'essaye de pas non plus être... Voilà, montrer ma tête tous les jours, etc. Je fais des apparitions et les gens savent, enfin pas tous, mais la plupart des gens savent que c'est moi derrière. Mais j'essaye aussi de passer la main parce que je trouve ça... En fait, et puis parce que aussi je trouve que c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue que le mien. Voilà, il y a d'autres gens qui travaillent à la com chez Meuf et je trouve ça intéressant qu'ils puissent aussi exprimer leur point de vue. Alors évidemment, on en parle ensemble, etc. Mais et des fois, ils abordent des sujets auxquels je n'aurais pas pensé, etc. Donc, j'essaye aussi de laisser un peu la main là-dessus. Et après, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Je pense qu'il y a quand même un besoin du consommateur de savoir qui est derrière les marques, les comptes. Et que c'est important de pouvoir facilement trouver l'information. Et je pense qu'on va aller vraiment de plus en plus vers une transparence totale sur le maximum de choses, quoi. Donc ça en fait partie. Et notamment, je pense que quand on est une marque, c'est encore, ça va être encore plus fort parce que je pense que maintenant, on a envie de savoir un peu à qui on donne notre argent. Et ça devient important. L'argent devient un peu militant, en fait. J'ai 30 euros à mettre dans un t-shirt. À qui je le donne, un peu. Enfin, à quel... c'est même plus à quelle marque je le donne, c'est à qui, en fait. Enfin, ça devient ouais, presque personnel. Même si évidemment ça va pas directement dans la poche des gens, mais voilà, en tout cas ouais, je pense que c'est un truc qui va vraiment être de plus en plus important, la transparence sur qui est derrière les marques et les comptes, quoi.
Ouais, donc ça veut dire accessibilité aux informations, et mais sans pour autant faire du personal branding toutes les 5 minutes. Ok, ouais, ça fait sens. Et justement, alors, enfin, la raison d'être de Meuf, elle est multiple. On comprend bien qu'il y a ce côté porter des messages féministes et squad communautaristes. Mais vous avez aussi des engagements sur l'éco-responsabilité, sur la traçabilité, sur le made in local. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution déjà de votre confection ? Entre les débuts et aujourd'hui, les bifurcations, en fait, les repositionnements.
Alors moi, depuis le début, j'avais une volonté de faire au mieux. C'était vraiment super important pour moi. Et à la base, je voulais faire en France parce que je voulais que ça soit proche. Je voulais pouvoir voir. C'était important pour moi, en fait, de pouvoir voir comment ça se fait, de pouvoir voir les gens avec qui je travaille. Je trouve ça super important, le côté humain. Et donc, voilà, c'était une volonté qui était là depuis le début. Mais au tout début, j'ai pas pu commencer avec des vêtements faits en France. C'était impossible avec les quantités minuscules que j'avais. Et personne ne voulait me suivre. Et donc, j'ai commencé avec des t-shirts qui étaient faits en Asie, avec tous les labels hyper responsables, Fairwear Foundation, Cotton Gods, etc. En me disant, bon, je vais tester le concept là-dessus. Et si ça marche, dès que je peux, je fais autrement, quoi. C'est un conseil qu'on m'a donné. Parce que moi, je m'étais acharnée à essayer de trouver. Et une des personnes sur qui je suis tombée en cherchant, en baladant dans le sentier pour chercher quelqu'un qui voulait bien fabriquer pour moi, qui est aujourd'hui mon associé sur l'atelier, c'est lui qui m'a dit « c'est bien, mais là, tu pourras pas, donc teste, et si ça marche, on verra comment on fait ». Et voilà, et donc on a fait ça un an, et au bout d'un an, on a eu les moyens d'avoir des quantités suffisantes pour fabriquer en France. Donc, on l'a fait et au début, donc, c'était externalisé, quoi. Et puis, très vite, on a lancé notre propre atelier. Donc, ça, c'était il y a 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, juste avant le Covid. Et voilà, donc, on a ouvert notre propre atelier qui est une autre société, du coup. Parce que l'idée, c'était de pouvoir aussi fabriquer pour d'autres marques. Mais qui était 100% financé par Meuf au début, par les productions de Meuf. En fait, on a attendu que Meuf ait assez de production pour pouvoir faire vivre un atelier. Qui était un atelier avec 4 personnes, hein, au début, donc un petit atelier. Aujourd'hui, on est 10 et on essaye de passer à 14. On a du mal à recruter. Voilà, et l'idée, c'est d'être 50 le plus tôt possible. et donc, l'atelier, voilà, ça a 2 ans et demi. Je bifurque un peu sur l'atelier parce que je pense que c'est intéressant. Mais
carrément.
C'est un atelier qui travaille du coup pour d'autres marques aussi. Donc, on travaille avec le slip français. On travaille avec Sonia Riquel, on travaille avec Sandro, Maj. Enfin, là, on a vraiment des super belles marques avec qui on bosse avec Rouge et Meuf, encore quand même, encore un petit peu de place. Et voilà, l'atelier est Origine France Garantie. On essaye de travailler que avec des matières responsables.
Vous faites quoi comme, enfin, c'est de la maille.
Ouais, de la maille et des culottes menstruelles pour Meuf.
Plus broderie, sérigraphie.
Alors ça, c'est
à côté.
À côté, ouais. Enfin, en gros, mon associé. On est 4 associés sur l'atelier. Nour et moi qui sommes chez Meuf et Bruno et Raphaël qui eux ont une autre société que tous les deux qui est une société de marquage.
D'accord.
Qui a un peu un écosystème qui fonctionne bien parce que eux ils font tout ce qui est marquage, nous on a la marque et ensemble on a la production. Voilà.
Donc t'as tout à portée, quoi. Tu passes la tête par la fenêtre et tu vois
exactement
toute ta chaîne de prod sous les yeux.
Ouais, exactement. Voilà. Et là, voilà. Donc ça fait un petit moment du coup qu'on fait tout nous-mêmes dans notre atelier. On a développé du coup notre propre culotte menstruelle aussi. Ça c'était assez technique à faire. Et puis là, on a lancé là il y a 2 semaines un projet d'upcycling du coup. Ça vient d'une démarche qui est assez personnelle. C'est que moi, je m'étais mis au défi cette année de ne pas consommer du tout du neuf. Enfin, je me suis autorisée un craquage par trimestre parce qu'en plus, j'ai des mariages et tout cet été. Donc, je ne suis pas sûre de trouver de la seconde main, même si c'est possible. Mais voilà.
J'ai plein d'adresses de location chambées pour toi.
Ah bah vas-y, on en parlera. Mais bref, pour l'instant, j'ai même pas utilisé mon joker au premier trimestre. Donc, ça se passe plutôt bien. Et donc, dans cette démarche personnelle, en fait, je me suis dit, mais attends, mais en fait, je peux pas m'appliquer ça à moi et pas l'appliquer à ma marque. Et donc, je me suis dit, mais ce serait super intéressant de mettre du meuf sur des vêtements déjà existants. Parce que finalement, la valeur ajoutée de meuf, c'est pas non plus... même si évidemment nos fringues sont de super bonne qualité et qu'il y a un énorme soin dans la confection, mais c'est pas une marque, c'est pas Jacquemus, quoi. Enfin voilà. Donc, je me suis dit mais ce serait génial et notamment en fait ça ouvrait aussi des possibilités sur des vêtements sur lesquels j'avais pas envie d'aller parce que je les trouvais pas assez éthiques. Je pense notamment au jean, voilà, qui est un des vêtements qui utilise le plus d'eau et j'avais trop envie de faire des jeans meufs et en même temps je me disais mais c'est horrible le jean en fait, enfin c'est avoir un beau jean en plus c'est très compliqué d'en avoir un qui vient de pas de loin bref. Et donc là on a lancé nos premiers jeans upcyclés, qu'on a pris des jeans qui étaient un peu foutus.
Ah oui, donc c'est du jean quoi, sur du stock de produits finis en fait. C'est ouais, pas du... c'est même pas du tissu pré-consumeur.
Non, okay. Non, du produit fini.
D'accord.
Complètement, du produit fini. Donc on est allé chez des grossistes en fripe. On a pris ce qu'on appelle du grade B. Donc c'est des jeans qui sont qui sont un peu tachés, qui étaient des jeans blancs qu'on a teints, qu'on a retapés et sur lesquels on a mis nos messages. Et ça, enfin, ça a cartonné. En une heure, on n'avait plus rien. On a 2000 inscriptions, je crois, pour un restock. Donc là, j'y étais hier. Je suis retournée chez le grossiste, justement. Et voilà. Donc là, l'idée, c'est de lancer aussi des collections sur des vêtements déjà existants. Donc là, on a fait un jean et une veste. Et en fait, c'est infini, quoi. Donc ça, c'est le nouveau projet... toujours dans une démarche le plus en plus éthique. Après, pour l'instant, on continue de fabriquer nos t-shirts et nos sweats parce qu'en seconde main, pour l'instant, on n'a pas trouvé une qualité qui va se rapprocher de ce que nous, on peut faire. Parce qu'on a quand même des super matières et, voilà, et on a envie quand même de proposer aussi des vêtements de qualité. Là où, sur le jean, en fait, les jeans vintage sont beaucoup plus quali que les jeans qu'on peut fabriquer aujourd'hui. Donc voilà, on essaye de on garde en fabrication ce qu'on trouve plus quali aujourd'hui et on va en seconde main sur les choses qui étaient mieux faites avant. Et voilà, donc hyper excitée par ce nouveau projet aussi qui a l'air de bien emballer la Meufia, donc c'est trop cool quoi qu'elle nous suive là-dedans.
Ça veut dire aussi que tu t'es au plus proche de la demande tout le temps parce que en fait c'est très rapide de renouveler tes stocks. Donc, il vaut mieux à la limite que tu sois sold out pendant 2 semaines et que les nanas comprennent que c'est parce que tu n'as pas préparé 10 000 pièces, dont la moitié que tu ne vas jamais vendre.
C'est ça. Ouais. Et puis, oui, enfin là, tu vois, nous, du coup, on a racheté un stock de jeans, on en a racheté quand même beaucoup. Mais je sais que dessus, je peux faire plusieurs designs, tu vois. S'il y en a un qui ne marche pas, bah, ce n'est pas grave. Enfin, nous, on a cette flexibilité d'avoir tout vraiment à côté. On travaille avec un teinturier qui est à 5 minutes en voiture de notre atelier. Donc pareil, on peut vraiment s'amuser sur les teintes de jeans, de tout vêtement. Et il est très rapide. Enfin, on a vraiment un écosystème qui est très, très agile et qu'on a construit et qui est super important parce que moi, c'est un truc, l'agilité, c'est un truc qui est très important pour moi et que je trouve... moi, je suis quelqu'un qui peut... Si les projets prennent trop de temps, je me lasse très vite et je n'ai plus l'envie, en fait. Et c'est ça que j'adore là, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de fabrication. Donc là, on a chiné hier. Là, ça va être lavé, etc. Mais dans une semaine, je peux avoir un nouveau jean avec un nouveau design, quoi. Donc c'est génial.
Ça veut dire que t'as pas vraiment de plan de collection. Ça, tu te l'imposes pas non plus. Comment tu développes tes produits, à quel rythme, etc.
Ça, pareil. Je mets pas de règles du tout. C'est des fois on fait des collections et des fois on sort juste un produit comme ça parce que on a l'idée et que ça nous fait kiffer. J'ai un associé qui essaye de mettre des règles justement parce que lui, ça le perturbe un peu et je pense qu'il a raison. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça en fait. Je fais ce que je veux quand je veux quoi.
Oui, parce que tu as suffisamment de créativité pour sortir des produits régulièrement.
C'est ça.
Et en même temps, on sait tous que ça peut vite devenir hyper asphyxiant d'avoir à suivre un rythme de calendrier.
Ouais.
Sans parler même des défilés, mais juste des collections, des intercollections, des mi-saisons, des croisières.
J'ai essayé de le faire et en fait, c'est vrai que moi, ça me perturbe, enfin, ça me bloque ma créativité, justement, d'avoir un calendrier. Alors que le fait d'être libre, je vais limite être beaucoup plus créative et sortir plus de créations que si on me dit, il faut que tu fasses 10 créations pour telle date, là, ça me met un... Je sais pas, ça me met un cadre qui moi, me convient pas, quoi. Après, je pense que c'est très personnel, hein, mais...
Et en termes de gestion des stocks, logistique, tout est aussi fait chez vous, les envois, etc.
Ouais, on expédie nous-mêmes.
Donc la pollution du dernier kilomètre, elle n'existe pas chez toi. Enfin,
non, pour le coup...
Fabuleux.
Ouais, franchement, ça c'est... Mais vraiment, en fait, c'est une volonté qu'on avait de tout contrôler, quoi. De savoir ce qui se passe à chaque étape et de pouvoir modifier soi-même à chaque fois. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail hein, de mise en place, mais franchement, une fois que c'est mis en place, c'est tellement chouette de tout maîtriser. Et puis, ça nous donne une flexibilité qui est énorme, en fait. La logistique, par exemple, on peut décider de rajouter un cadeau hyper facilement sans que ça nous coûte 2 euros parce que c'est un geste en plus ou que ça mette qu'il faille prévenir 6 mois à l'avance, etc. Enfin, c'est ça, c'est toutes les opérations qu'on veut lancer. On peut les lancer du jour au lendemain. On n'a pas besoin de faire des mails à 10 personnes pour organiser un truc. Enfin, tout est plus simple. C'est...
Et aujourd'hui, vous êtes vos seuls distributeurs en ligne ou tu as des points de vente ?
Ouais, non, on est 100% en ligne. On a eu des distributeurs à un moment, mais c'était un petit peu compliqué à gérer parce que je trouve que c'est compliqué de gérer l'image de ta marque quand tu es distribué. Nous, avec Meuf, en fait, on peut aussi facilement être utilisé pour se donner une bonne image. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc que je voulais vraiment pas. Et voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça qui se sont passées au début. Et du coup, j'ai préféré arrêter. Alors peut-être qu'on le refera, mais de manière beaucoup plus contrôlée. Et donc, d'en faire moins aussi. Mais voilà, en tout cas, on fait super attention à ça. Et notre marque a été quand même assez utilisée au début, notamment autour du 8 mars. Voilà,
tu étais féministe d'une journée.
Ouais, voilà. Enfin, des opérations qui ont été faites sans notre accord. Et voilà, enfin, pour moi, le 8 mars, c'est pas une journée... commercial et voilà, donc on fait attention, on sait aussi que effectivement ça peut être une manière de dire regardez on est féministe pour des distributeurs ou des comptes Insta ou voilà plein de gens hein. Donc on fait attention à comment on fait les choses quoi.
C'est génial parce que t'es vraiment l'exemple de la marque qui est quand même une grosse marque aujourd'hui, en tout cas parmi les marques françaises, mais qui est quand même super proche de sa communauté et de ses clients et qui fait les choses de façon assez exemplaire à plein d'égards. Mais justement, toute cette dimension de responsabilité sociale et environnementale, elle est présente sur le site, mais ce n'est pas du tout ce que vous mettez en avant. Donc, ça montre bien que ça ne doit pas être un argument marketing, s'il fallait le rappeler.
Oui, mais il faudrait qu'on en parle plus. Quand même, ça serait bien qu'on explique, parce qu'en plus, on en est fiers. Mais, mais c'est vrai que là, il faut qu'on refasse notre site et on aimerait bien quand même parler plus de notre atelier et tout ça. Même, c'est même pas pour vendre, mais c'est... Voilà, moi, les gens avec qui je travaille à l'atelier, c'est des gens avec qui je tiens énormément. Notre chef d'atelier, là, il nous a invités à manger chez lui avec sa femme. Enfin, c'est des gens, après, c'est des aventures humaines aussi. Donc... C'est
famille élargie quoi.
Ouais, c'est ça, franchement c'est comme ça que nous on a choisi de travailler et vraiment enfin quand tu dis famille, c'est le bon mot quoi, c'est que moi mes associés c'est mon associé, un de mes associés il a 60 ans et pour moi c'est mon papa du business quoi. Enfin c'est des gens en qui j'ai une confiance et en qui j'ai enfin pour qui j'ai un amour qui est énorme et voilà, enfin on s'amuse ensemble quoi. C'est pas du business comme on peut l'entendre au premier degré quoi.
Il faut qu'on arrive à la fin de ce podcast. Enfin, on arrive à la fin de ce podcast et il faut qu'on conclue. Ouais, j'ai encore plein de questions pour toi, mais ce sera en off ou ça fera l'objet d'une deuxième interview. La dernière, c'est peut-être. Est-ce que tu as déjà réfléchi à quel serait le sujet de ton film si t'en faisais un ? T'as déjà écrit un livre ? On mettra bien sûr toutes les infos dans les notes de l'épisode.
Eh bien, écoute, en ce moment, je réfléchis beaucoup à un projet autour de la santé, justement. Je sais que tu en connais un rayon. J'aimerais bien... Mais c'est plus un projet de livre, pour le coup. Mais en tout cas, j'aimerais bien faire un projet de livre autour de la santé et qu'on puisse avoir les points de vue des malades, des soignants et aussi de la famille, des accompagnants, enfin des proches. Je trouve je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc, j'ai commencé à écrire un petit peu là-dessus. Donc, là, c'est le projet actuel. Mais après, projet de film, là, en ce moment, j'en ai pas spécialement en tête. Et puis, je pense que, quand je l'aurai, il va falloir que je le fasse vite. Donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas maintenant, parce qu'en fait, ce serait pas possible. Alors que le livre, c'est plus faisable d'écrire à côté.
Donc ça veut juste dire qu'il faut suivre la multitude de tes activités. Et pareil, on mettra pour ça les informations sur les réseaux, le site de Meuf et puis ton compte perso si on peut.
Ouais, carrément.
Dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Claire, c'était super.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.